Alors, l'inventaire de la bibliothèque de Qumran, par exemple, a révélé l'existence de collections de psaumes qui sont différentes de la nôtre. Donc, il y a d'autres psaumes qui existaient. En plus, vers la fin de la période biblique, le développement de la littérature apocalyptique va donner lieu à un foisonnement où le meilleur côtoie le pire. Et il était inévitable qu'à un moment ou un autre, les docteurs de la loi fassent un tri. Et c'est chose faite à l'époque de Flavius Josèphe. Alors Flavius Josèphe, c'est un historien, alors historien dans la deuxième partie de sa vie, politicien dans la première. Donc du premier siècle, un contemporain justement des guerres, de la première guerre juive dans laquelle il a joué un rôle d'ailleurs. Et dans un opuscule de controverses destiné à un grec qui s'appelle Appion, il fait état d'une liste définitive de 22 livres ayant valeur normative pour les juifs. Et on l'appelle en grec le canon, qui signifie en grec un roseau. Et vous savez, c'est avec des roseaux. On a d'ailleurs un exemple dans, je crois que c'est dans Ézéchiel, avec quoi on mesure? On mesure avec un roseau. Alors on mesure avec des coudées, bien sûr, des pieds, des choses de ce genre, mais qui sont normés, enfin normatisés, par des roseaux. Et donc, le roseau permet de mesurer aisément. Et donc, ça a une valeur normative, donc ça a la valeur de règle, vous voyez. Et c'est comme ça, c'est en ce sens-là que le roseau devient comment dire, synonyme d'une règle. Donc, ces 22 livres normatifs, eh bien, voilà ce que dit donc Flavius. Il dit, chez nous, il n'y a pas une légion de livres divergents et qui se contredisent, allusion à tous les philosophes grecs, mais seulement 22, lesquels décrivent tout le passé et sont considérés à bon droit comme divins. Cinq d'entre eux sont de Moïse, ce qu'on appelle le Pentateuque. Ils contiennent les lois et l'histoire de l'apparition de l'humanité jusqu'à la mort de leur auteur, Moïse. Cette période s'étend sur environ 3 millénaires. De la mort de Moïse jusqu'au règne d'Artaxerxès, qui régna sur les Perses après Xerxès, les prophètes ont décrit les événements de leur temps en 13 livres. Les quatre derniers renferment des chants de louange à Dieu et des conseils pour la vie des hommes. D'Artaxerxès à nos jours, tout a aussi été décrit. Mais ces livres n'ont pas la même considération que les précédents parce qu'ils ne prennent pas l'exacte succession des prophètes. Une preuve de confiance que nous pouvons opposer aux écrits des autres nations tient en ce qui suit. Dans tous les siècles qui se sont écoulés depuis la production des livres mentionnés, personne ne s'est jamais avisé d'ajouter des suppléments au texte ou d'en passer sous silence des extraits ou d'apporter encore d'autres changements. Tous les Juifs, au contraire, prêtent foi à leur origine divine. Elle leur reste fidèle au point même de mourir avec joie pour eux. Quel Grec en comparaison donnerait sa vie pour sauvegarder la littérature de sa patrie? Alors, voyez, donc dans ce texte précieux, on trouve la nomenclature, la loi, les 5 livres de Moïse, les prophètes, qu'on divise en prophètes antérieurs et prophètes postérieurs, hein, antériores, postériores. Donc les prophètes antérieurs, en fait, globalement, ce sont les chroniqueurs de la monarchie, parce que les 4 livres des rois, les 2 livres des paralipopènes, là, des chroniques, parce que 4 livres des rois, c'est en fait 1 et 2 Samuel, 1 et 2 rois, puis après il y a 1 et 2 chroniques. Puis les prophètes dits postérieurs, ce sont les grands prophètes, hein, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça. Et puis, après, il y a les autres écrits dont on considère qu'ils n'ont pas la même valeur. Et c'est là qu'on trouve, par exemple, déjà des insertions araméennes, grecques, dans un texte hébreu. Et vous voyez, on a à nouveau, donc là, on est 2 siècles après les Maccabées, et on a exactement la même présentation, comment dire, ternaire de l'écriture. la loi, les prophètes et, comment dire, les autres écrits. Sachant que dans les prophètes antérieurs sont ce que nous, nous appellerions les écrits historiques. Tandis que les prophètes postérieurs sont les écrits prophétiques. Et comme dit Flavius Joseph, les chants de louange et des conseils pour la vie des hommes, eh ben, c'est le psautier, et puis tous les livres sapientiaux, sagesse, Coëlette, enfin tout ça. Et vous voyez qu'en même temps qu'on a une division ternaire, on a aussi une périodisation où plus c'est ancien, plus ça a de valeur. Les cinq premiers livres sont intouchables, la loi, ensuite il y a les livres prophétiques, puis les derniers livres qui sont à qui on a, pour lesquels on accorde moins de valeur et pour lesquels on peut faire quelques retouches. Voilà. Donc il y a une sorte de différence qualitative entre les écrits pré-exiliques et la production post-exilique. La ligne de démarcation étant le début du moins 6e siècle. En gros.
Il n'y a pas eu deux exils.
Comment ?
Il n'y a pas eu deux exils.
Alors, si, parce qu'il y a eu deux royaumes qui ont été, il y a eu deux royaumes. Alors, il y a un premier royaume qui a été exilé, enfin, qui a été détruit, donc ils sont un peu dispersés. Et surtout, le deuxième royaume, de fait, il y a eu deux exils. D'abord un exil uniquement avec la crème du, enfin l'aristocratie, et puis alors comme ça continuait à, comment dire, à chahuter, après ils ont déporté tout le monde, sauf les. Ah ben ça c'est fin début du VIe siècle justement, c'est la chute de Jérusalem. On verra ça dans le deuxième chapitre. Alors donc les premiers livres relève d'une époque où les auteurs ont pu être inspirés par Dieu, Moïse et les prophètes, tandis que les seconds relèvent d'une historiographie qu'on pourrait presque qualifier de profane, qui est donc une sorte de relecture de, des événements du passé. Et on voit donc se dessiner une distinction entre littérature inspirée divine et une littérature profane, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque de la reconquête asmonéenne, une fois qu'on chassera les rois séleucides. Par exemple, le rédacteur du deuxième livre de Maccabée, des Maccabées, ne distingue pas entre la littérature religieuse et historique, administrative ou autre. Mais, vous voyez, à l'époque de Flavius Joseph, donc deux siècles après, la distinction est faite. Et cette distinction est soulignée par l'allusion que fait Flavius Joseph au sacrifice consenti par les Juifs persécutés par Antiochus pour leur littérature religieuse. Et ils n'auraient certainement pas donné leur vie si ils n'avaient pas cru qu'elle incarnait la parole de Dieu. Ils considéraient que c'était simplement, je ne sais pas quoi, moi, des écrits administratifs ou les archives du royaume. Hein. Alors ça, c'était petit a, la question de l'autorité des livres. Petit b, le canon juif. Alors Flavius Joseph énumère le canon. Les cinq livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les 13 livres prophétiques, Josué, Juge, Samuel, Roi, Chronique, Esdras et Néhémie, Esther, Job, Jérémie avec ses lamentations, Ézéchiel, Daniel et le livre, le rouleau des 12 prophètes. Les petits prophètes, comme on dit. Amos, tous ces gens-là. Alors petit, parce qu'en fait, ça ne prend pas beaucoup de place. Oui, c'est que le texte est court. Et puis les quatre autres livres où qualifient allusion, c'est Psaume, Proverbe, Coëlette, enfin ou Ecclésiaste, et le Cantique. Donc on a voilà les 22 livres. Et cette liste aurait été arrêtée à Jamnia, en Galilée, par les milieux pharisiens, qui étaient les seuls survivants de la catastrophe qui vit la répression, que fut la répression de la révolte juive, la destruction du temple et ensuite la reprise de Jérusalem par les troupes de Titus. Alors les pharisiens, comme les chrétiens d'ailleurs, avaient considéré que toutes ces révoltes, ça ne les concernait pas. Alors les chrétiens, c'était débiné les premiers, parce qu'ils n'étaient vraiment pas concernés. Et puis les pharisiens, eux, du moment qu'on les laissait mener leur vie religieuse tranquille, ils se fichaient pas mal que ce soit les Romains ou autres qui alors qu'en revanche, les milieux sadducéens qui avaient le pouvoir et l'argent, eux étaient plutôt, collaborateurs, parce que l'ordre, ça vaut toujours mieux que... Enfin, l'ordre, c'est bien, parce que ça permet de faire des affaires. Et voilà. Et puis, y avait les milieux opposés, qui étaient les zélotes et autres sicaires et autres, qui, eux, voulaient rétablir l'indépendance et qui, vous savez, comme pour Charette, sont allés chercher leur aristocratie et l'ont mise à la tête de leur mouvement, à son corps défendant. Et précisément, Flavius Joseph, qui faisait partie de ces milieux qui n'étaient pas du tout intéressés par la Révolution, a été, pour sauver sa vie, obligé de se mettre à la tête du mouvement pour pouvoir, prendre la tangente suffisamment à temps pour éviter d'en payer le prix. Donc il s'est fait mettre à la tête du mouvement avec d'autres d'ailleurs, et il a été assez malin pour s'en désolidariser et ensuite en être l'historien. Vous voyez,
il subsiste que les pharisiens.
Comment ?
Il ne subsiste que les pharisiens.
Mais en fait, il subsiste que les pharisiens. Oui, les chrétiens, oui, si vous voulez. Les pharisiens, et puis alors le clergé, lui, la tribu sacerdotale. Ben, elle s'est diluée dans la diaspora. Normalement, elle a des noms qui permettent de la reconnaître, comme Cohen ou des gens comme ça. Et puis, Kahn en allemand, par exemple, c'est la même chose. Donc, il y a des descendants, mais ils n'exercent plus du tout le sacerdoce, puisqu'il n'y a plus de temple. Enfin, le sacerdoce est lié au lieu. Donc, plus de lieu, plus de... Si on reconstruisait le temple, certainement que la tribu sacerdotale pourrait se recoaguler et puis reprendre ses fonctions, si on peut dire. Voilà pour les... Les Sadducéens se sont noyés dans la... Alors, il faut dire que les Sadducéens, ils étaient presque tous à Jérusalem. Or, Jérusalem a été anéantie, donc ils ont payé le prix fort. Et ceux qui ont subsisté se sont dilués dans le reste du peuple. Les zélotes, évidemment, qui étaient le fer de lance de la révolte, ils ont été liquidés à la manière romaine, c'est-à-dire sans faire trop de... La clémence de Titus, c'est bien, mais uniquement pour les gens sérieux, enfin, pour les gens qui la méritent, pour les autres. Et quand les Juifs eux-mêmes... n'ont pas choisi la voie du suicide. On voit ça. Ça durera des années, la répression, parce que non seulement il faudra... Ils mettront 5 mois à reprendre Jérusalem. Ça a été une affaire incroyable, parce qu'à l'intérieur de Jérusalem, il y avait des gens qui étaient partisans d'aller jusqu'au bout. Il y avait ceux qui étaient prêts à traiter. Donc, du coup, les autres les considéraient comme des traîtres. Donc, leur faisaient la guerre à l'intérieur de Jérusalem. Donc, il y avait des différents camps de ceux qui voulaient passer aux Romains, ceux qui voulaient passer nulle part et ceux qui voulaient aller jusqu'au bout, donc se battaient entre eux. Et pendant ce temps-là, les Romains encerclaient tout le reste. Et donc, ils se sont entre-massacrés eux-mêmes. Et après, les Romains sont arrivés parfois dans des endroits où déjà les Juifs s'étaient tués entre eux. Et puis voilà. Et puis alors, après, il a fallu, comme Hérode le Grand avait fait construire, avec la folie des grandeurs, avait fait construire des tas de points fortifiés, notamment à Massada, dans la vallée de la mer Morte, là, la vallée du Jourdain. Et ben, cette forteresse a tenu plusieurs années, et face à des effectifs considérables Et à la fin, lorsque les Romains ont réussi à construire la rampe d'accès, la méthode pour assiéger les points fortifiés, eh bien, ils se sont suicidés en masse, comme feront plus tard les Cathares, du reste. On a spéculé donc sur les raisons qui ont poussé ces juifs pharisiens à mettre fin officiellement à la phase de constitution du corpus des textes sacrés. Alors, certains disent, plus de temple, ça veut dire que ça y est, on passe une nouvelle phase de l'histoire. Et donc, on est dans une phase où on regarde maintenant vers le passé pour attendre une restauration messianique lointaine. Donc, vous voyez, ces phases de cristallisation à la fois. Et en même temps, on considère que Dieu s'est tu dans la mesure où désormais il n'y a plus de culte. Le culte qu'il a ordonné n'existe plus, donc Dieu s'est tu. Et pour d'autres, il s'agissait de fixer le cycle des lectures synagogales. Donc pour avoir un cycle de lecture, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à lire. Et donc ce qu'on lit et ce qu'on ne lit pas. Et comment on le lit. Donc le cycle des lectures synagogales sont au culte juif désormais autorisé par la puissance romaine. Pour d'autres, c'était une réaction de défense à l'invasion des textes hétérodoxes, toutes les apocalypses fantaisistes qui vont pulluler ce qu'on appellera la littérature intertestamentaire, très inspirée des spéculations perses. Ce sont les Perses qui ont introduit les anges dans la Bible. Eux, ils ne cessaient de spéculer là-dessus. Et du coup, les Juifs commencent à spéculer aussi. Donc, un certain nombre de rabbis disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette littérature qui n'est pas de chez nous ?» Et donc mettre un frein à l'invasion justement de tous ces textes. Puis il y a les premiers écrits chrétiens qui se constituent, donc qu'est-ce que c'est encore que ce truc, donc on n'en veut pas. Et puis il y a les premiers écrits gnostiques aussi, donc toutes ces réinterprétations, on pourrait dire un peu platoniciennes, mais pas que, des écrits inspirés. Donc finalement on se dit, il faut qu'on ait une liste bien déterminée de livres pour éviter la contamination de la religion, de la foi, par des choses qui lui sont étrangères. Et puis, on peut y voir aussi la conséquence de la moindre considération en laquelle était tenue la période post-exilique, bien qu'en fait, une très grande partie de la littérature considérée comme antérieure ait été mise par écrit, justement, au moins collationné à cette période. Et vous savez, c'est toujours un peu la même chose dans ces civilisations traditionnelles. Plus c'est vieux, plus ça a de la valeur. En fait, on n'accorde pas beaucoup d'importance au présent. Vous produisez un truc actuellement, vous avez du mal à vous dire que vous produisez de la parole de Dieu. Par contre, si vous récupérez une tradition vieille de plusieurs millénaires, écrite depuis des siècles, et inchangée, là, vous dites, ça a certainement de la valeur. Et donc, c'est comme ça que ces cultures fonctionnaient. Et on remarque que la liste donnée par Flavius ne comporte justement aucun texte écrit en grec. Parce que on considère que le grec, c'est déjà une corruption. Les textes grecs sont des textes corrompus qui véhiculent des traditions trop récentes. Qui adultère en quelque sorte la religion juive. Le retour d'exil, alors il faut comprendre pourquoi. Parce que les premiers à avoir inventé l'apartheid sont les juifs. Pour une raison toute simple, c'est que la méthode des potentats orientaux, enfin, du Moyen-Orient, c'est quand sont des empires. Donc dans des empires, il y a des peuples. Quand un peuple fait échahuteur, disons, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le déporte. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ils perdent sa cohésion en n'étant plus dans ces... on le disperse, on le déporte dans un autre lieu. Et aussi parce qu'un bon nombre de divinités ne sont pas des divinités célestes, mais chthoniennes. Donc, si vous retirez un peuple de son sol, il perd ses dieux. Donc, s'il perd ses dieux, il perd aussi sa puissance. Donc, il devient insignifiant, ou en tout cas, il devient sans danger, inoffensif. Donc, c'est pour ça qu'on déportait les peuples. Mais d'un autre côté, quand on a besoin de manger, et qu'on a besoin aussi d'avoir des sous, pour qu'il y ait des sous, il faut qu'il y ait des gens qui produisent pour qu'on puisse les taxer. Donc, on ne peut pas laisser une zone inhabitée. Donc, on ramasse des gens d'ailleurs, et hop, on les met à l'endroit où on a déporté le peuple qui nous embête. Vous voyez, donc, les problèmes d'aujourd'hui, vous voyez, c'est des problèmes qui remontent à des millénaires. Hein. Donc, ces Juifs avaient été déportés. Et quand ils sont revenus avec les Perses qui leur permettent de revenir, qui permet à l'élite qui avait été déportée en gros à Babylone de revenir à Jérusalem, ils vont se retrouver au milieu d'un ramassis de gens qui n'ont rien à voir avec Israël. Et ils vont se dire, il faut s'en garder, il faut se garder de se mélanger avec ces gens, parce que sinon, comme ils sont beaucoup plus nombreux que nous qui sommes revenus, ils vont nous diluer dans leur médiocrité. Parce que justement, ces gens qui ont été ramassés de partout, ils n'ont pas de tradition, ils ne sont rien, comme dirait l'autre. Hein? Donc, ils ne sont rien. Et alors, pour rester ce qu'on est, c'est là qu'il y a toute cette législation d'interdiction des mariages mixtes, d'interdiction de tous les préceptes alimentaires qui se multiplient, cette multiplication de règles qui fait que on se mélange pas.
On comprend très bien.
Et donc, ils gardent leur spécificité. Et donc, le grec, alors ça vaut pour les gens, mais ça vaut aussi pour les langues, ça vaut aussi pour les éléments de culture. Et tout ça est du coup rejeté. Alors que les chrétiens, eux, vont pas avoir d'ennui avec la pollution grecque de la Bible, des textes bibliques juifs. Au contraire, ils vont prendre l'Ancien Testament en grec comme texte, puisqu'ils vont écrire en grec. Donc, comme ils écrivent en grec, ils vont prendre les textes bibliques traduits en grec, et du coup, les textes grecs rajoutés aux textes bibliques. Alors, pas tous encore, puisqu'on verra que nous aussi, on va devoir faire notre canon de nos propres écrits néo-testamentaires, mais aussi le canon des textes de l'Ancien Testament qu'on veut garder, qu'on considère comme inspirés. Sauf qu'on aurait une notion plus large de l'inspiration. Et en fait, notre Bible juive à nous, elle est plus grande, plus large que la Bible juive des Juifs.